Très content de t'avoir parmi nous. Donc, je vais lire pour vous le verset d'aujourd'hui après qu'on va prier. C'est toujours le même pour cette semaine. Un grand classique, mais je pense qu'on est capable de le redécouvrir avec une nouvelle optique, un nouvel angle. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On va prier. Seigneur, ce matin, nous venons encore une fois pour sonder tes Écritures et recevoir de ta part une nourriture spirituelle qui nous fera du bien pour cette journée, qui orientera, Seigneur, nos façons d'être et nos tâches d'aujourd'hui, et qui, nous le prions, sera, Seigneur, une source de bénédiction pour nous tous. Oui, Seigneur, c'est un classique et parfois les versets que nous pensons connaître, que nous pensons être capables de réciter si facilement, souvent, Seigneur, il renferme des secrets, des richesses au-dessus desquelles on passe très rapidement, tout simplement parce qu'on ne prend pas le temps d'étudier. Alors ce matin, quelle bénédiction de pouvoir nous réunir, tous dispersés autour de la province, mais en même temps rattachés par le truchement de l'Internet. Alors ce matin, ouvre notre entendement, ouvre notre pensée. Permets-nous de saisir combien a été grand le prix que tu as payé pour nous et pour notre salut, et que nous puissions y répondre avec sincérité de cœur et avec une conviction profonde. Nous t'avons prié sachant que tu nous aimes et que tu prends soin de nous. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous. Je sais que plusieurs se connectent à travers la page Internet de l'Église. Ils apparaissent donc pas sur la connexion Facebook, mais on vous salue à vous tous et tous ceux qui sont connectés via le téléphone auprès de d'autres frères et sœurs ce matin. Alors à vous tous aussi, bien le bonjour. On ne vous nomme pas parce qu'on n'a pas vos noms, mais sachez que à chaque fois qu'on entend et qu'on apprend que vous étiez connectés, ça nous fait un grand plaisir. Alors cette semaine, en cette 10e semaine, si je ne m'abuse, ou 11e, on perd le compte un peu, 10e ou 11e semaine de confinement, on étudie, comme je disais un peu plus tôt, le plus grand classique probablement de l'Église protestante, le plus grand classique du Nouveau Testament, ce fameux verset de Jean 3, 16, qu'on voit parfois afficher simplement la référence dans certains événements sportifs ou publics, et qu'on prend parfois pour acquis. Alors hier, on a commencé avec « Car Dieu a tant aimé le monde ». Et on a vu que Dieu a aimé un monde comme le nôtre, avec tous ses côtés moins agréables et moins aimables. Et on a vu que ce verset-là faisait le lien avec le verset juste avant, où on nous donnait l'exemple, où on nous rappelait le moment de l'histoire d'Israël, où Israël s'est rebellé contre Dieu et aussi contre son serviteur Moïse. Et Dieu a envoyé des serpents pour faire mourir le peuple. Mais lorsque le peuple s'est repenti, s'est approché de Moïse, ayant demandé pardon et demandé que Dieu intervienne, Dieu a pourvu pour Moïse et pour le peuple la méthode pour ne pas mourir des morsures du serpent, et c'était de forger, de sculpter un serpent en airain et de le mettre au haut d'une perche. Et la Bible nous dit que toute personne qui regarderait le serpent après avoir été mordu n'aurait pas à mourir, mais continuerait à vivre. Et on a vu que Dieu faisait un parallèle entre le serpent élevé dans le désert et le Fils de l'homme, Jésus, le Messie qui était offert pour le salut de l'humanité. Et dernier point qu'on a vu hier, on a vu quatre thématiques dans lesquelles le peuple s'était plaint Et souvent, c'est notre mauvais penchant aussi de nous plaindre de Dieu, insatisfait de notre sort, insatisfait du leadership que Dieu exerce ou que les leaders que Dieu place exercent. Penser que Dieu veut notre mort et notre perte, et enfin mépriser la provision divine. Et on a vu que Dieu nous aimait d'un amour incomparable et qu'il était prêt à nous accueillir, à prendre soin de nous, qu'il était passionné de nous et il l'est encore aujourd'hui et qu'il voulait nous chérir. Et aujourd'hui, on dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Hier, on s'est arrêté sur le mot car au tout début et on faisait le lien du raisonnement qui habitait Jésus lorsqu'il parlait à Nicodème et qui lui donnait ce verset. Et aujourd'hui, je veux m'arrêter sur le mot que, Q-U apostrophe I-L, si vous voulez, qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Q-U apostrophe, ou qui remplace le que, bien sûr, c'est en grec hosté, qui s'écrit O-H-S-T-E, qui veut dire alors. Ainsi, de telle sorte, Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a tellement aimé notre génération, qu'alors, il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu envers l'homme ne laissait aucune autre alternative que de faire ce qui était nécessaire d'être fait. Lorsqu'on parle de ce terme que, on parle d'une conséquence, on parle de la suite des choses. Et le prémisse, c'est le fait que Dieu nous aime. Et cet amour, il va le manifester en donnant son Fils unique. Mais la pensée ici, c'est qu'il n'y avait pas d'autre choix, il n'y avait pas d'autre alternative que de faire tout le nécessaire. Oui, Dieu avait le droit de nous laisser dans la condamnation qui était la nôtre suite au péché, de nous laisser aller vers une éternité chassée loin de lui, vers une éternité où on était exclu de sa présence, mais Dieu nous a tellement aimés, cet amour de Dieu était tellement réel et tellement fort que ça ne laissait aucune alternative. Aucune autre option que de faire tout ce qui était nécessaire. Et c'était quoi qui était nécessaire? C'était le fait de pourvoir un sauveur, de pourvoir un messie, de pourvoir quelqu'un qui prendrait sur ses épaules la condamnation qui était à la base la nôtre, qui subirait le jugement à notre place pour qu'on puisse être sauvé. Certains pensent que la grâce est gratuite et on va voir aujourd'hui la grâce n'a jamais été gratuite. Certains pensent que le salut est gratuit, il t'est offert gratuitement, mais c'est pas parce qu'une chose t'est offerte gratuitement comme un cadeau que cette chose-là n'a rien coûté. Lorsque c'est ton anniversaire et que quelqu'un qui t'apprécie ou même quelqu'un autour de toi tout simplement décide de te faire un cadeau, il ne te fait pas payer le cadeau. Il te donne un cadeau. Mais ce n'est pas parce qu'il te donne un cadeau que la personne qui est l'expéditeur du cadeau, qui est le donateur du cadeau, ça ne veut pas dire que lui n'a pas payé. En fait, la plupart du temps, ce cadeau-là, il est allé l'acheter, il a soit fourni un effort, il l'a eu en troc ou autre, mais il a fourni quelque chose pour faire sien ce cadeau et après ça, te le remettre gratuitement, gracieusement. Et la grâce de Dieu, le salut de Dieu, oui, t'es offert gratuitement, t'es offert et tu n'as rien à payer pour ce salut, mais le salut par lui-même a coûté quelque chose. Et cette chose-là, Dieu était prêt à le payer, Dieu était prêt à défrayer les coûts pour ton rachat et pour ton salut. Alors Dieu t'a tellement aimé que pour lui, il n'y avait pas un prix trop grand pour ton salut. Et ça, c'est l'idée que tu dois avoir constamment de Dieu. C'est l'idée que je dois nourrir constamment de Dieu. trop souvent, on le voit comme le juge qui est là prêt à taper sur la tête de quelqu'un qui veut tout simplement tuer, égorger et voir périr. C'est pas ça. La Bible dit que c'est nos propres fautes qui nous ont condamnés. C'est nos propres actions qui nous ont condamnés. Le verset suivant est très clair. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça veut dire que si on avait besoin d'être sauvé, c'est qu'on était déjà condamné. Jésus n'est pas venu te condamner. Jésus est venu offrir. Jésus est venu donner la possibilité d'être sauvé. Et c'est l'image que tu dois garder dans ta tête. Dieu a tout fait ce qui était nécessaire pour te sauver. Dieu a fait tout ce qui était requis. Il a rempli toutes les exigences pour que tu sois sauvé. Pourquoi? Parce qu'il t'aimait à ce point-là. Il était tellement passionné. Il était tellement aimant de ta personne, de ma personne, du genre humain, de sa créature, qu'il voulait à tout prix nous sauver et qu'il n'a jamais lésiné sur le prix, il n'a jamais hésité sur le prix à payer. Donc il nous est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le terme donné, c'est le terme didomi, mais donné se retrouve aussi en grec dans différentes tournures. Ici, c'est didomi, D-I-D-O-M-I. Je répète, D-I-D-O-M-I. Et didomi a un sens assez étendu. Ça veut dire donner avec son accord. Ça veut dire que j'ai donné et j'étais conscient et je donnais délibérément. Je donnais pas parce qu'on me tordait le bras. Je donnais parce que je prenais la décision de donner. Et didomi veut aussi dire donner pour le bien d'autrui. Parfois, on donne un bibelot, on va dire, mais ce bibelot, à part chatouiller le regard des gens, ce bibelot n'apporte rien d'utile. Lorsque didomi est utilisé comme terme ici dans le fait de donner, on parle qu'il est donné avec comme objectif le bien de celui qui va le recevoir. Didomi veut aussi dire qu'il est donné dans tout ce qui est dû. C'est comme s'il y a une dette qui est pendante et Dieu décide de payer pour la dette. Il n'efface pas nécessairement la dette. La dette s'efface parce qu'il y a un prix qui a été payé, il y a le montant de cette dette qui a été payé, et parce qu'elle a été payée, alors là, on efface la dette. Mais en soi, la dette n'est effacée que parce que quelqu'un, quelque part, a décidé de payer ce prix. Donc, ce qu'on doit retenir de Didomi ce matin, c'est premièrement que Dieu a donné son Fils sciemment et délibérément. Et là, chacune des tangentes de l'Église et chacune des écoles de l'Église, quant à la définition de Dieu, va interpréter ce verset-là d'une façon propre à son école de pensée. Si on pense que c'est trois personnes qui constituent un Dieu, donc la pensée trinitaire, on va penser que Dieu le Père a offert le Fils. Si on est unitaire comme chez nous à l'Église et qu'on pense que ce ne sont pas trois personnes, mais trois manifestations d'une seule et même personne, bien à ce moment-là, ce n'est pas un Père qui offre le Fils, mais c'est le Père-Fils, puisque c'est la même personne, qui décide lui-même de s'offrir pour le sacrifice de l'humanité. Et ici, on dirait donc que Christ s'est donné sciemment. Et ça va avec des versets des évangiles où Jésus va dire, personne ne prend ma vie, personne ne m'enlève ma vie, c'est moi qui la donne. Il dit, je donne ma vie pour mes brebis, personne n'est venu la prendre. Alors ici, Christ donne sciemment, délibérément, sa vie. Ce que ça nous dit aussi, c'est que puisque c'est un don qui est fait pour le bien d'autrui, Christ s'est donné pour le bien de l'humanité. Il l'a fait de façon tout à fait altruiste, mais pas altruiste dans le sens « je fais juste une bonne action ». C'était motivé par la passion qu'il avait envers toi et envers moi. Et voilà pourquoi lorsqu'on parle de la mort de Jésus à la croix, on appelle ça la passion. Dans les évangiles, le jour où Jésus va laver les pieds de ses disciples, donc dans les heures qui ont précédé son arrestation, la Bible nous dit qu'il a mis le comble à son amour. C'est comme s'il a porté son amour au paroxysme de ce que pouvait être l'amour, et ce faisant, il a lavé les pieds de ses disciples, comme s'il était lui-même l'esclave de ses disciples, et par la suite, il est allé jusqu'à donner sa vie pour ses enfants, donner sa vie pour ses disciples. Donc Christ s'est donné pour le bien de qui? Le bien de toi, mon bien à moi, le bien de ceux qui m'entourent, le bien de toute l'humanité, que cette humanité le reconnaisse ou ne le reconnaisse pas, il a quand même payé le prix. Après, il demeure de toi, de moi, de prendre effectivement pour nous, de s'approprier pour nous le sacrifice et le cadeau qui nous a été fait. Mais à la base, Christ se donne sciemment, délibérément, et Christ se donne aussi pour le bien de ta vie, pour le bien de ma vie, pour le bien de ton éternité et de mon éternité. Enfin, Christ s'est donné comme paiement. On dit qu'on a donné tout ce qui est dû. Donc, il y avait une dette et cette dette a été payée. Christ s'est donné comme le paiement dû pour ta grâce, un peu comme une rançon. Le péché t'a accaparé, le diable a pris possession de ta vie, possession de ta destinée, et pour réacquérir les droits sur ton existence, Christ a payé le prix. Donc c'est comme une rançon qu'il offrait, une rançon qu'il payait pour t'arracher des mains de tes ravisseurs, pour t'arracher des mains de celui qui te veut la plus mauvaise des destinées, l'enfer. Donc Dieu va payer le prix, Christ va payer le prix comme une rançon. Et je crois qu'il est important régulièrement de revenir à ce prix qui a été payé pour toi et pour moi. Je pense que parfois ça devient tellement une normalité et une banalité, on est tellement habitué à cette histoire de la mort de Jésus que par moments ça en perd toute son importance et toute la portée de l'immensité, de la grandeur du sacrifice qui a été accompli. Rappelons-nous, nous allons passer l'éternité dans la présence de notre Seigneur, dans la présence de notre Sauveur, parce qu'il y a un prix qui a été payé. Et ce prix-là, aucun d'entre nous ne pourrait le rembourser. Il est impossible pour toi et pour moi de payer tout l'outrage, tout le mal que Jésus a eu à payer pour toi et pour moi. Ce sacrifice qu'on dirait incommensurable. Et incommensurable veut dire qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas dépasser ni à droite, ni à gauche, ni au-dessus, ni en dessous. Il est hors de notre portée, ce sacrifice. Dieu l'a payé pour toi, il l'a payé pour moi. Et je pense que si nous, en tant que chrétiens, on ne laissait pas cette histoire de la mort de Jésus tomber dans la banalité, tomber dans l'habitude, on serait tellement transformé, tellement changé. Notre amour pour Dieu serait sans cesse frais, sans cesse passionné, sans cesse renouvelé, parce que nous nous rappellerions quel a été le sacrifice qui a été payé pour que toi et moi puissions nous dire sauvés, pour que toi et moi puissions prétendre à l'éternité avec Jésus. Il a donné son Fils unique, sciemment, délibérément, pour ton bien et comme rançon pour la grâce qui t'a été accordé. Mais qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné son fils unique. Et unique, ici, c'est le terme grec monogenèse, donc M-O-N-O-G-E-N-E-S. Je répète, M-O-N-O-G-E-N-E-S pour ceux qui prennent des notes, qui veut dire le seul de son type, le seul de son genre. Donc, Dieu a donné son fils qui était incomparable, exceptionnel, impossible à dupliquer. Si quelque chose est seul de son type, on peut essayer de l'imiter, mais on ne peut pas parvenir à être identique. Personne ne pouvait satisfaire ce que Jésus était, hormis Jésus lui-même. Personne ne pouvait être ce que Jésus a été, hormis Jésus lui-même. Et vous savez tous que lorsqu'il y a quelque chose qui est unique, lorsqu'il y a quelque chose qui est exceptionnel, lorsqu'il y a quelque chose qui ne peut pas être dupliqué, qui ne peut pas être copié, cette chose en devient plus que précieuse. Une pierre précieuse, elle est précieuse non pas parce que sa composition chimique est si exceptionnelle que ça, parce que elle est différente d'un autre, mais ce qui la rend précieuse, c'est le fait qu'elle soit rare, rarissime. Et encore plus que toutes les pierres précieuses, encore plus que toutes les richesses que ce monde peut contenir, Jésus, il n'y en a eu aucun comme lui avant, il n'y en a eu aucun comme lui après, il n'y en aura aucun comme lui de toute éternité. Alors imaginez l'être le plus précieux qui n'a jamais existé, a été donné pour ton salut et pour mon salut. Pense à la chose la plus précieuse que tu possèdes. Pense peut-être à la personne qui t'est la plus précieuse dans ta vie. Qu'arriverait-il si on te demandait de sacrifier cette chose ou cette personne? Est-ce que ce serait facile? Est-ce que ce coup ne serait pas abominable? Je vous raconte une petite péripétie. Hier, je me suis senti très, 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 très mal. Les ongles, ou les griffes plutôt, de mon chien, après 2 mois de confinement, commencent à être relativement longues. Donc, même si j'ai maintenant un rendez-vous pour la semaine prochaine pour qu'elle se fasse toiletter, je me suis dit, elle commence à avoir de la misère un peu à marcher à cause de la longueur de ses ongles, donc je vais couper. J'ai coupé un ongle, je l'ai coupé une griffe, je l'ai coupé trop court, elle a fait un petit gémissement et ça s'est mis à saigner. Et à mes yeux, ça a saigné beaucoup, mais c'était peut-être pas énorme, mais ça a saigné beaucoup. Mais le fait que j'ai fait mal à mon chien, je me suis senti mal en point durant toute la journée. Alors imaginez si c'était votre fils. Imaginez si c'était la chose la plus précieuse que vous n'avez jamais, jamais eue. Et que cette chose-là ou cette personne, vous l'envoyez à la croix pour le bien de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous a renié, quelqu'un qui vous a abandonné, quelqu'un qui vous a rejeté. Mais parce que vous aimez tellement et que vous voulez tellement que cette personne ne souffre pas, que vous permettez qu'on prenne votre chose la plus précieuse et qu'on la sacrifie pour le salut de cette personne qui était mécréante, qui était méchante, qui était médisante et qui faisait tout le contraire de ce qui était bien. Mais voilà ce que Jésus a fait. Il était exceptionnel et il a été donné. Et personne ne pouvait dupliquer qui il était. On ne pouvait pas trouver un deuxième ou un troisième ou un quatrième. Tous les agneaux et tous les animaux qui ont été sacrifiés avant Jésus n'étaient que des choses temporaires. Alors que le salut que Christ a accompli, il est éternellement efficace et éternellement adéquat. Il a donné son Fils unique. Il a donné celui qui ne peut être remplacé. Il ne peut pas être remplacé. Avant lui, il n'y a jamais eu rien. Après lui, il n'y aura jamais plus rien. Il ne peut pas être remplacé. Et de surcroît à ça, la Bible nous dit que Jésus était le prémisse de toute la création. Et là, c'est une idée qui est intéressante. Ça veut dire que avant même que l'homme ne soit créé, avant que le monde et l'univers ne soient créés, Christ existait déjà. Et Christ était déjà prévu, pensé pour le salut de l'humanité. Le sacrifice pour ton salut, avant même que tu ne pèches, Dieu pensait à toi et il désirait te sauver. Jésus n'est pas un ricochet de ton péché. Jésus n'est pas un ricochet de ta condamnation. Jésus n'est pas un ricochet de ton abandon de Dieu. Jésus était déjà donné, était déjà préparé, était déjà offert avant même que l'homme n'ait fait quoi que ce soit de mal. Dieu avait déjà pourvu. Dieu avait déjà en pensé. Dieu avait déjà cet amour pour nous avant même qu'on soit créé. Et cet amour faisait que le jour où ils pécheront, parce qu'ils savaient qu'on allait pécher, mais le jour où ils pécheront, il y aura déjà la source de salut qui peut encore aujourd'hui les sauver. Jésus t'a tellement aimé qu'avant que tu sois, il voulait déjà te sauver. Dieu t'a tellement aimé qu'avant le premier péché que tu n'aies commis, il voulait déjà te sauver. Dieu t'a tellement aimé qu'avant la naissance même, le jour de ta naissance, la fraction de seconde, avant qu'on ne dise que tu étais né, Jésus t'aimait déjà de toute éternité. Et Jésus avait déjà été offert comme salut pour toi et pour moi. Il avait déjà été proposé comme cet agneau qui allait sauver l'ensemble de l'humanité. Aujourd'hui, je parle de Jésus et j'essaie de vous parler de lui avec toute la passion que je devrais avoir. Et je sais que même cette passion-là, elle est limitée. Mais j'espère que je vous amène ce matin à remettre les bases dans votre existence, à ramener à la réalité certains faits. Vous savez, une fois ou deux ou trois par année, je retourne à certains films, et pas simplement à la période de Pâques, mais à quelques reprises durant l'année, je retourne à certains films qui nous parlent de la mort de Jésus. Il y en a un en particulier, je ne veux pas faire de publicité plus qu'il ne faut, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est montré dans le film, mais je pense que le film qui s'intitule La Passion du Christ est probablement le film qui nous illustre le plus près ce que Jésus a eu à souffrir pour toi et pour moi. Et je me fais un devoir régulier durant l'année de revisionner ce film. Tout simplement parce que si j'ai besoin d'images pour me rappeler ce qu'il a fait pour moi, mais je veux que ça reste frais dans ma pensée. Je ne veux pas que la mort de Jésus devienne un fait banal. Je ne veux pas que la mort de Jésus devienne un fait divers dans ma vie. Je ne veux pas être tellement habitué à la mort de Jésus que j'en oublie pour qui il l'a fait et pourquoi il l'a fait. Je veux me rappeler que je suis la raison pour laquelle il a été donné. Je veux me rappeler que je suis la raison pour laquelle il a accepté ce sacrifice. Je veux me rappeler qu'il l'a fait parce qu'il était passionné de moi, parce qu'il m'aimait. Je veux me rappeler que lorsqu'il a étendu les mains, qu'il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il parlait de moi. Je veux me rappeler que lorsque son sang a versé, lorsque son corps a été brisé, c'était à cause de moi. J'espère que tu peux faire le même exercice ce matin, que tu peux te dire « Oui, il l'a fait pour toi aussi. » Parce que c'est le cas, je n'ai pas été le seul pour lequel il a fait la chose. Alors ce matin, Car Dieu t'a tant aimé, toi, qu'il a donné son Fils unique pour que toi, tu sois sauvé. On va s'arrêter là ce matin. On continue demain avec la suite du verset, mais j'espère que cette image de Jésus qui est offert pour toi, de Jésus qui s'offre pour toi, j'espère que ça va te travailler durant toute cette journée. J'ai prié pour toi. Seigneur, tu nous rappelles aujourd'hui quel a été le sacrifice que tu as eu à payer pour nous. Seigneur, les mots nous manquent pour dire adéquatement merci. Tu étais le prémisse de la création, le tout début de toute chose. Et au tout début de toute chose, il était déjà arrêté que tu serais le sauveur de l'humanité en mourant sur la croix. Seigneur, pardon pour toutes ces occasions où ce que tu as fait à la croix est devenu une banalité ou une normalité dans mes pensées, où j'ai agi comme si c'était quelque chose qui m'était dû, où j'ai agi en perdant de vue toute la douleur et toute l'immensité du sacrifice. Seigneur, je prie pour ma sœur, mon frère, mais pour moi-même aussi, que cette pensée de Christ sacrifié pour mon péché, que cette pensée de Christ sacrifié à cause de moi puisse m'habiter. J'appelle, Seigneur, à un retour dans nos pensées, à un retour franc dans notre être. Cette connaissance du fait que tu es mort pour nous et que tu étais la seule voie de salut pour quiconque. Aucun autre ne pouvait payer ce prix. Aucun autre n'a payé ce prix. Alors merci Seigneur. Et que cela, Seigneur, cette image, cette pensée nous rapproche de toi et nous oblige, nous amène à vivre notre vie différemment. Seigneur, je veux vivre honorant le sacrifice que tu as fait pour moi. Je veux vivre, Seigneur, honorant la mort que tu as eu à subir pour moi. Et je veux t'honorer avec mes paroles, avec mes actions, avec mon mode de vie, avec mes réactions, avec mes objectifs. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, laissez-moi juste saluer ceux qui se sont joints à nous depuis tout à l'heure. Malheureusement, je ne peux pas voir tout le monde encore. Je sais que José Luis est là. Je sais que Soraya est là et qu'il y a 7 autres personnes, mais je ne sais pas qui sont ces 7 autres personnes. J'essaie de voir ce côté-ci si certains ont réagi. Rosie d'Alsace, bonjour. Marta Lucia de la Vendiga. David Dubois. J'espère que ce message t'a fait du bien. Et j'espère que tu as compris que Jésus t'aimait toi aussi. Qui d'autre? Nias Queen, Dieu te bénisse. Javel, Dieu te bénisse. Effectivement, le terme ricochet, ben, c'est deux choses. Quand tu lances une pierre à la surface des eaux, quelqu'un demandait, et ça fait des ricochets, ça rebondit, il y a ça. Ricochet aussi, c'est quand tu lances quelque chose, puis ça dévie parce que ça a frappé quelque chose, puis ça ricoche ailleurs. Donc, il y a ça. Qui d'autre que je vois ici? Je crois que c'est à peu près tout. Oui. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Alors, pour ceux qui s'inquiètent pour Nema, elle va très bien. Elle est même couchée tranquille là-bas. Au bout de quelques minutes, elle ne sentait plus rien. Elle a même pas, au bout de quelques secondes, elle ne sentait plus rien. Mais son maître était très mal toute la journée. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Elle est affectueuse comme toujours. Elle est gentille comme toujours. Et puis voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, je vous souhaite une bonne journée dans la chaleur terrifiante qui s'amène. Que Dieu vous bénisse, vous aimez l'été, qu'il soit votre secours. Et puis moi, je vais essayer de me garder au frais le plus possible. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous. Et puis on se retrouve demain matin pour la suite de notre bénédiction matinale. Au revoir à tous.